Et en fait, on va faire une petite intro sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a été constituée en 1976 par la Charte des droits et libertés de la personne. Son nom et sa mission actuelle proviennent de la fusion en 1995 de la Commission des droits de la personne et de la Commission de protection des droits de la jeunesse. C'est un organisme indépendant du gouvernement et qui remplit sa mission au seul bénéfice des citoyens et dans l'intérêt du public. Donc aujourd'hui, en fait, on aborde à l'émission les ressources pour connaître et défendre nos droits. Je vais y aller directement avec la première question. Qu'est-ce que la mission concrètement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse?
Oui, parfait. Bonjour. Alors, la mission de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en fait, on a un rôle qui est double. Veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus dans la loi sur la protection de la jeunesse et par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. J'en profite aussi pour souligner que c'est le 40e de la Charte.
C'est
Donc, cette
vrai,
année.
oui, c'est vrai, on le souligne. Il y a des événements, je pense, un peu tout le long de l'année pour rappeler cette implication-là.
Exactement.
Puis, rapidement, quel type de dossier, en fait, on peut recevoir à la Commission des droits?
En fait, je voulais juste aussi préciser pour la mission, elle veille aussi à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Mais pour répondre à votre question, en fait, je pourrais vous parler des différents services qu'on a. Donc, effectivement, pour porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il faut être victime de discrimination, d'harcèlement ou d'exploitation là, prévue dans la charte. Donc, oui, on a plusieurs services à faire. Donc, pour protéger contre la discrimination, les gens peuvent porter plainte à la Commission. On a aussi un service d'enquête quand les gens portent plainte, un service conseil en matière d'accommodement raisonnable pour les gestionnaires. On veille aussi au respect des programmes, comme je disais, d'accès à l'égalité. On publie des avis et des recommandations. Donc, pour expliquer un peu aux gens, par exemple, c'est quand il y a des projets de loi, on va les examiner, puis si on a des recommandations à faire au gouvernement, on le fera. On analyse aussi les projets de loi, bon, c'est ça pour s'assurer de la conformité, mais on a aussi un service de médiation. De plus en plus, les gens, justement, quand ils portent plainte à la commission, on les invite, justement, vers ce service-là de médiation. On donne de la formation aussi. C'est un service dont je fais partie. Donc, on donne des sessions de formation dans les milieux. On informe aussi les gens, on développe des outils d'information. Et dans le cadre de projets, on a beaucoup de projets aussi. Mis à part les services qu'on peut offrir à la Commission, de notre propre initiative, on va faire des projets avec les différents organismes pour sensibiliser, toujours dans le but de sensibiliser et promouvoir la Charte des droits et libertés.
Justement, puis donc de démystifier aussi qu'est-ce que ça peut être une situation de discrimination ou de harcèlement. Même vous le mentionnez, des accommodements raisonnables, ce sont des termes qu'on a beaucoup entendus, entre autres dans les médias dans les dernières années.
Tout à fait.
Donc vous intervenez pour qu'on sache c'est quoi précisément et qu'est-ce qui se passe. En termes justement de discrimination, ça peut être quoi les types qu'on peut rencontrer?
En fait, il y a 13 motifs de discrimination, donc 13 motifs pour lesquels on peut porter plainte à la Commission, donc à l'article 10 de la Charte des droits et libertés. Je peux vous les nommer rapidement si vous voulez. Donc, il y a race, couleur, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, l'âge, sauf dans les mesures prévues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique et nationale, la condition sociale et le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à ce handicap.
Donc, c'est vraiment très varié, en fait. Ça peut rejoindre tous les citoyens.
Exactement, exactement.
Puis, justement, quand est-ce qu'on doit porter plainte? Qu'est-ce qui est de la discrimination? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À quel moment est-ce qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose qui cloche et que peut-être on devrait aller consulter?
Ben, en fait, j'encourage toujours les gens, quand on a le sentiment qu'on est victime de discrimination, qu'on est mis à l'écart, qu'on n'a pas les mêmes services que les autres, j'encourage les gens à porter plainte à la Commission des droits de la personne. Et en parlant, lorsque on reçoit la plainte, les gens vont nous diriger si, par exemple, ce n'est pas une plainte qui nous est adressée, mais que c'est pour une autre commission ou un autre endroit, on va le préciser.
Un autre service de protection du citoyen à
Exactement,
ce moment-là.
tout
Donc,
à fait, tout à fait.
vous êtes aussi un cadre de référence, en fait.
Oui, effectivement.
Puis, je voudrais juste qu'on prenne quelques minutes pour faire la différence entre le Tribunal des droits de la personne et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Oui, c'est deux institutions très différentes. Le Tribunal des droits de la personne, c'est vraiment un tribunal, comme un tribunal, comme à la Cour d'appel, à la Cour du Québec. Et puis, c'est un tribunal qui vraiment entend les questions de discrimination, de harcèlement et d'exploitation. Donc, c'est ça son rôle. La nuance, c'est qu'un individu ne peut pas s'adresser directement au tribunal de la personne. En fait, il y aurait plus de nuances à apporter que ça, mais souvent, c'est la Commission des droits de la personne qui apporte les dossiers devant le tribunal des droits de la personne.
OK. C'est sous recommandation de la Commission.
C'est ça, avec les plaintes qu'on
avec
reçoit.
Avec les plaintes pour aller plus loin dans le processus à ce moment-là.
Tout à fait.
Donc, on peut supposer que c'est quelque chose qui ne se sera pas réglé en médiation, par exemple.
Exactement, exactement. L'avantage aussi, c'est que nos services à la commission sont gratuits. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vient porter plainte à la Commission des droits de la personne, puis qui a besoin, par exemple, de poursuivre sa plainte un peu plus loin, on fait enquête et il a besoin d'un avocat pour être représenté au Tribunal des droits de la personne, bien, c'est pris en charge par la Commission des droits de la personne.
Donc, c'est vraiment un souci aussi que ça soit quelque chose qui reste constamment accessible à tous les citoyens.
Tout à fait.
Puis, donc, je le disais un peu plus tôt, vous êtes agente d'éducation et de coopération à la Commission.
Oui.
Quelles activités vous organisez ou en fait, c'est votre mandat d'être ici aujourd'hui avec nous pour nous parler plus en détail de l'organisme, mais quel bagage vous avez? Êtes-vous juriste? Avez-vous plutôt travaillé en communication? Comment est-ce que ça se conjugue?
Oui, bien, on a plusieurs profils à la Commission des droits de la personne, effectivement, avec des juristes, mais ce n'est pas que ça. Moi, par exemple, j'ai commencé, oui, mes études en droit, mais j'ai aussi un bac et une maîtrise en éducation. Donc, ce qui m'amène justement dans le département de l'éducation et coopération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on donne beaucoup de sessions de formation dans les milieux. Donc, les organismes, par exemple, qui veulent recevoir plus d'informations, on va sur place, on demande aux gens, par exemple, d'être un groupe, par exemple, d'environ 15 à 20 personnes, et on peut aller rencontrer partout au Québec les gens directement. C'est sûr qu'on essaie de former des agents multiplicateurs parce qu'on est une petite équipe. Alors, donc, des intervenants, des gestionnaires qui aimeraient en savoir davantage sur les droits de la personne et qu'est-ce qu'on fait.
Les situations, justement, de discrimination,
Exactement.
De harcèlement, et qui peuvent se retrouver dans plusieurs milieux.
Oui.
Donc, pas seulement entre individus, mais aussi parfois sur le milieu du travail, dans
Tout
le milieu
à fait.
Des services. J'aimerais qu'on profite, en fait, de l'occasion que vous êtes avec nous, juste pour aborder cet aspect d'accommodement raisonnable, que parfois, c'est une expression qui est galvaudée.
Oui.
Donc, en quoi ça consiste, un accommodement raisonnable?
Ouh là là. En fait, je veux juste préciser aussi que par rapport aux accommodements raisonnables, parce que les gens, parce qu'on entend, bon, à tort et à travers, toutes sortes de trucs, c'est que le premier motif, en tout cas jusqu'à présent, pour lequel on demande des accommodements raisonnables, c'est par rapport au handicap.
Donc, c'est la première tout à fait. Cause, OK.
Exactement, le premier motif pour lesquels on demande des accommodements. Donc, c'est ce qu'on reçoit. Donc, effectivement, ça peut être un gestionnaire en milieu de travail qui ne sait pas comment ou qui refuse d'accommoder une personne qui est en situation d'handicap. Ou il y a aussi le moyen pour pallier au handicap. Donc, quelqu'un, par exemple, on pense aux chiens guides, aux chiens d'assistance, on pense aux personnes à mobilité réduite, etc. Donc, ce sont tous des accommodements qu'on peut faire, là, justement, pour... qu'on peut, en fait, que les gens ont droit à ces accommodements-là. Donc, je rappelle que on a droit.
Exact. Et c'est inscrit dans la loi, en fait.
Exactement, exactement. Sous le droit à l'égalité, l'article 10.
Exact. Et donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus entendu dans les médias lié à une question de religion ou d'appartenance culturelle.
Exactement.
Davantage que le handicap. Donc, c'est intéressant la nuance que vous amenez aujourd'hui. Et... Donc, je ne sais pas si on peut aborder beaucoup cet aspect-là. C'est quoi le processus, en fait, pour pouvoir porter plainte?
Je vais regarder ça, puis je voulais juste inviter les gens à aller sur notre site web à www.cdpdj.qc.ca. Et on a beaucoup... nos dépliants sont disponibles aussi pour ceux qui veulent avoir plus d'informations aussi sur les projets qu'on a mis en place, justement, je pense à l'accessibilité des commerces. On a fait un rapport de sensibilisation. On a des dépliants aussi pour mieux informer les gens qui ont besoin de services ou qui sont confrontés à de la discrimination. Donc, vraiment, les avis juridiques aussi, les recommandations qu'on a fait dans ce sens-là, je pense que ça serait
tout
intéressant.
Tout est disponible. Oui, tout exactement. Est disponible vraiment pour, à la lecture du public.
Tout à fait, tout à fait. Et juste pour reprendre les étapes d'un traitement d'une plainte. Bon, premièrement, puis je veux un peu démystifier ça parce que les gens souvent sont découragés en voulant porter plainte à la commission. Donc, on pense que c'est quelque chose de gros, de lourd et tout. On a des gens pour accompagner ces gens-là. Donc, ça commence par... on peut porter plainte par écrit ou par téléphone. Ensuite, on a une équipe dédiée à l'accueil et à la recevabilité. Donc, on reçoit la plainte. On regarde si la plainte... si on peut continuer, justement, s'il y a matière, si c'est lié à un motif de discrimination. Ensuite, on évalue la plainte. Et c'est là qu'on va voir, bon, est-ce qu'il y a matière à faire enquête? Donc, on peut faire enquête par la suite. Souvent, on va proposer la médiation. Et on a un grand succès à la médiation, il faut le préciser. Là, en ce moment, les gens préfèrent régler les différends par la médiation au lieu d'aller devant le tribunal.
Et ça montre en fait que c'est un processus qui fonctionne bien.
Oui,
donc,
tout à fait.
Qu'on arrive à réconcilier, si on veut, les deux parties. Donc, à la fois la personne qui s'est sentie lésée dans ses droits, mais à la fois aussi la personne ou l'organisme en tort et qui parfois ne savent pas qu'ils sont en tort. Il y a une méconnaissance aussi de leurs responsabilités et de ces situations de discrimination qui tombent parfois dans des zones grises.
Tout à fait.
Donc, pour avoir plus d'informations, on peut se rendre sur le site web, on peut aussi vous contacter. On va mettre en ligne, nous, sur la page de l'émission, tous les sites qui ont été mentionnés. Merci beaucoup, Joanne Magloire, agent d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, ça m'a fait plaisir.